Parmi les sentiments qui sont à la source de nos mythes se trouve, en grande place, l'amour. Ses conséquences heureuses ou désastreuses, ses pulsions, ses désirs, ses déceptions. Qu'il s'agisse de légendes anciennes ou de récits plus modernes, l'amour semble toujours au cœur de nos préoccupations, et donc de nos histoires. À travers tous les continents, de l'Asie à l'Amérique du Sud, elle se raconte aux oreilles qui veulent bien les entendre. Certaines traversent les siècles, se transforment, changent de support, et viennent même nous hanter sur grand écran. Si la forme et la manière de raconter évoluent, il reste au centre des légendes, invariablement, ce sentiment amoureux qui emporte tout dans son souffle épique. Et certaines histoires peuvent même emporter leurs personnages au-delà du septième ciel. Littéralement.
Je suis Charles.
Je suis Mathias.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Au-delà du septième ciel. Un fermier brésilien a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres en décembre 1957 alors qu'il labourait son champ. Une histoire d'enlèvement qui aurait pu ressembler à beaucoup d'autres, sauf que ce que lui ont fait ces extraterrestres est un peu... particulier. Mathias, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était sur le site anglais Metro, metro.co.uk. L'article relatait la sortie d'un bouquin intitulé, avec un titre assez explicite, Screwed by the Aliens, True Sexual Encounters with ETs.
Alors du coup en français, parce que je sais que plusieurs auditeurs nous ont fait remarquer que notre accent anglais était catastrophique. Ce
ouais
qui
est... Alors, screwed, je saurais pas trop le traduire... disons sans être vulgaire.
Ah oui, non, mais t'es forcément vulgaire, parce que le mot de base est vulgaire. Hein,
okay,
baisé par des aliens, en fait.
Voilà. True sexual encounters with ETs. Donc, vraie rencontre sexuelle avec des extraterrestres. Le livre en question répertorie les histoires impliquant du sexe entre êtres humains et extraterrestres. Alors, il y a des histoires, évidemment, bien plus ou moins sordides, hein, vous en doutez. Mais pour ce spécial bureau des mystères de l'amour, une en particulier a attiré mon attention. Dans cet ouvrage collectif, un des auteurs raconte l'histoire d'un fermier brésilien. Selon Nigel Watson, donc ufologue, auteur d'un manuel d'investigation des UFO interviewé par le site Metro à l'occasion de la sortie de ce bouquin, il s'agirait d'un des premiers cas d'enlèvement et de rapport sexuel avec des aliens. Donc cette première relation sexuelle documentée, dans laquelle on a un témoignage entre un alien et un humain, remonterait donc aux années 50. Avant cela, avant la mode des extraterrestres, on trouve surtout des traces de récits de relations sexuelles avec des démons ou avec des monstres mythologiques parfois. Mais c'est le premier à relater des faits de ce type avec un alien. Antonio Villas-Boas était donc un fermier brésilien et un étudiant en droit. En décembre 1957, le jeune homme a 23 ans. Avec son frère, il laboure un des champs de la ferme familiale. Le soleil s'était couché depuis un moment, mais les deux hommes continuent de travailler. Une lumière apparaît dans le ciel. Elle semble bouger, mais pas de manière hasardeuse. La lumière donne l'impression de s'ajuster en fonction de la position de leur tracteur. À chaque fois que le tracteur termine un sillon et commence à en labourer un autre, la lumière donne l'impression de les suivre. Elle s'approche ensuite du champ, mais les deux frères, effrayés, arrêtent le travail et rentrent immédiatement chez eux. Le lendemain, Antonio retourne à son champ et à nouveau, dans la soirée, alors qu'il est tout seul aux alentours de minuit, la lumière revient et s'arrête à une centaine de mètres de lui. Elle est, à ce moment-là, plutôt haute dans le ciel. Antonio tente alors de détacher la charrue de son tracteur, pour rentrer, évidemment, rentrer en tracteur le plus rapidement possible, mais le moteur de celui-ci s'arrête. Impossible de le redémarrer. Il regarde à nouveau la lumière, et celle-ci descend et descend encore jusqu'à se retrouver à une vingtaine de mètres de lui. Elle est devenue maintenant très forte et éclaire une bonne partie de son champ. À cette distance, dans la nuit, Antonio peut désormais apercevoir, malgré le contre-jour, qu'il ne s'agit pas seulement d'une lumière, mais d'une machine, une soucoupe volante. Il voit alors deux êtres en sortir, et à partir de là, descend du tracteur et se met à courir. Malheureusement, vous en doutez, la terre encore très meuble et fraîchement retournée le retient et l'empêche de s'échapper. Il tente de courir, mais les deux êtres étranges le rattrapent, le saisissent et le portent jusqu'au vaisseau. Une fois dans la soucoupe, il est amené dans une salle complètement ronde et déposé sur une table tout aussi circulaire en son centre, une sorte, pour se le figurer, il faut imaginer une sorte de grand guéridon. Il est attaché et semble être le sujet d'un test sanguin. Alors vous dites, il est où le BDM de l'amour ? Pour l'instant, ça ressemble plus à de la torture. Et je vous dis,
c'est plutôt patience. Le BDSM de l'amour.
C'est exactement ça, c'est le BDSM de l'amour, mais ça va se transformer en BDM de l'amour, je vous rassure. Apparemment, selon le témoignage d'Antonio, le prélèvement aurait été fait au niveau du menton. La cicatrice aurait été visible pendant des années après les faits. Après quoi, il aurait été emmené dans une autre pièce pour être lavé avec un liquide qu'il qualifie d'inconnu. Seul dans la pièce, pendant plusieurs minutes, il s'est mis à sentir une odeur étrange, comme si la pièce elle-même expulsait une odeur étrange et si désagréable que ça l'aurait rendu malade. Il aurait eu des nausées, il aurait même vomi, mais sans savoir exactement si les symptômes venaient de l'odeur elle-même, de la terreur qu'il ressentait ou du prélèvement sanguin qu'il venait de subir. Une vingtaine de minutes après avoir été lavé dans cette pièce, la porte s'ouvre et deux hommes encadrent ce qu'il identifie comme une femme extraterrestre. Il en fait la description. Elle a de fins cheveux blonds, n'a pas de cils ni de sourcils, mais des poils pubiens d'un rouge vif, car oui, la femme est nue. Elle a de petites oreilles, un tout petit nez et une toute petite bouche. Ses yeux, en revanche, sont très grands, et Antonio la qualifie à ce titre de plutôt typée chinoise. Elle aurait des pommettes proéminentes et des dents très blanches. Par un tour de magie, dont seuls les extraterrestres ont le secret, la nausée d'Antonio disparaît soudainement. Il ne se sent plus malade, l'odeur ne l'importune plus. Selon ses dires, sa peur se serait même envolée. Il déclarera plus tard que donc la femme était également nue et, je reprends ses mots, avait l'expression de quelqu'un qui voulait quelque chose.
En l'occurrence, on a bien compris quoi.
On a bien compris. Elle se serait approchée de lui, l'aurait embrassé, et lui faisant comprendre qu'elle voulait continuer, serait tombé complètement amoureux. Il avouera également que la femme correspondait exactement à ses fantasmes. Comme si les extraterrestres avaient une connaissance poussée, non seulement de la psychologie humaine, mais également de ses propres désirs, qui, je rappelle du coup, la femme n'avait ni cils, ni sourcils. Pourquoi pas ?
Et donc des poils pubiens rouges.
Et des poils pubiens rouges.
Et plutôt typée chinoise.
Et plutôt typée chinoise, voilà.
Et une toute petite bouche. Et des grands yeux.
Et des grands yeux, voilà. Et des toutes petites oreilles.
On juge pas.
Putain.
Ce désir.
Voilà, exactement. Il s'est senti, et je le cite encore, irrésistiblement attiré par cette femme. Et aurait eu des rapports avec elle. Des rapports qui l'auraient fait se sentir incroyablement satisfait. Jusqu'à ce qu'elle lui fasse comprendre que c'était fini. Qu'ils en avaient fini tous les deux. Cet incroyable moment aurait duré en tout une heure. Une heure d'amour intense avec une extraterrestre.
Présomptueux.
Dans son récit, Antonio Villas-Boas redevient un peu plus terre-à-terre, enfin, façon de parler, et fait part de ses regrets vis-à-vis de cette relation de courte durée. Je le cite, « C'est ce qu'ils voulaient de moi, un bel étalon pour perfectionner leur stock. Au final, il ne s'agissait que de ça. » Un peu présomptueux comme tu disais donc. Disons qu'Antonio a l'air d'avoir une assez haute estime de lui-même. Il continue. J'étais énervé, mais je me suis résolu à ne pas accorder d'importance à cette histoire. De toute façon, j'ai passé un moment très agréable.
Et elle aussi, a-t-il ajouté.
Elle aussi. Il y a quand même plusieurs choses qui l'ont dérangé. Notamment la femme extraterrestre aurait poussé des grognements proches de ceux d'un animal, ce qui aurait, je cite selon lui, failli tout gâcher. Lorsque la femme est sortie de la pièce, elle se serait arrêtée à la porte, se serait retournée, l'aurait regardée, en souriant, et aurait pointé son ventre. Antonio a interprété ce geste comme l'annonce d'un potentiel retour, comme si elle promettait de revenir sur Terre. D'autres plus tard l'ont interprété comme la possibilité qu'elle soit enceinte, une manière de lui dire qu'elle allait s'occuper de leur enfant une fois retournée sur sa planète.
Je vois pas comment il a réussi à comprendre qu'elle allait revenir si elle montrait son ventre, je vois pas la corrélation entre les deux.
Antonio a sans doute une imagination débordante.
Oui.
Ce qui est bizarre, c'est que ce soit le fait qu'elle pointe son ventre qui te dérange le plus dans cette histoire, ceci dit.
Non mais c'est juste que je comprends pas le message. À la rigueur que oui, elle soit enceinte, c'est cohérent.
Ouais.
De se montrer le ventre, mais je vois pas dans quel contexte je peux montrer tout le monde pour dire je vais revenir, en fait.
Ouais, je ne sais pas. Écoute, c'est peut-être un signe extraterrestre que seul Antonio a su interpréter. Il était environ 5h du matin quand Antonio a été relâché près de son tracteur. Il aurait passé environ 4h15 dans la soucoupe. Il s'est aperçu à cette occasion que son tracteur avait bel et bien été saboté. Donc que les extraterrestres avaient une connaissance de l'ingénierie humaine puisqu'ils auraient débranché la batterie. C'est vrai qu'avec toutes les technologies qu'ils ont pour venir sur Terre, le seul moyen qu'ils ont d'arrêter un tracteur, c'est de débrancher les batteries. Il s'aperçoit aussi qu'il a plusieurs brûlures sur tout le corps et c'est cela qui l'encourage à consulter un médecin et à raconter son histoire. Et c'est un médecin, le docteur Olavo Fontes, qui est à la fois professeur de médecine à l'École nationale de médecine au Brésil et représentant de l'APRO, donc pour Aerial Phenomena Research Organization, un groupe américain qui étudie en fait les ovnis, qui va l'encourager à rendre son histoire publique. Ce qu'il fera, puisqu'il parlera le 22 février, donc de l'année suivante, en 1958. On aurait par la suite fait état de symptômes étranges, il aurait souffert d'un empoisonnement en radiation, selon le docteur Olavo Fontes, de nausées, de maux de tête, de perte d'appétit, de sensations de brûlure dans les yeux. Et tout ceci serait apparu dans les mois qui auraient suivi son enlèvement. Il aurait alors passé une batterie de tests physiques et psychologiques de l'armée brésilienne, qui aurait fini de convaincre les ufologues de l'époque de la véracité de son récit. Première chose intéressante à noter dans cette histoire, c'est que dans les déclarations d'enlèvement extraterrestre, quasi tous étaient décrits de petite taille. C'est assez drôle, la description qu'on faisait des aliens avait l'air assez cohérente, ils étaient toujours humanoïdes, et là en l'occurrence, ils étaient tellement humanoïdes qu'ils étaient capables de distinguer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme extraterrestre. C'est bizarre, ils n'envisagent pas par exemple qu'il aurait pu avoir des relations homosexuelles avec un extraterrestre, c'était forcément une femelle. La description que l'on faisait des aliens était donc assez cohérente, et surtout correspondait énormément à l'imaginaire de l'époque et au récit de fiction qui circulait alors. En réalité, l'histoire que je vous ai racontée ne sera publiée que plusieurs années après qu'elle se soit prétendument déroulée. Au milieu des années 60, ce sera la première version intégrale de l'histoire et elle paraîtra dans la revue Flying Saucer, en 1965 si je dis pas de bêtises. Et la version que je vous ai racontée est tirée de l'ouvrage The Lure of the Age, Scientific Patience, Religious Beliefs and the Pursuit of UFOs. L'auteur, c'est Brenda Denzler, et l'ouvrage a été publié aux Presses universitaires de Californie. La version que je vous ai lue est en fait largement inspirée de l'article du Flying Saucer Review. La partie la plus explicite, et ça aussi c'est intéressant de noter, la partie la plus explicite de la relation sexuelle n'aurait été ajoutée que plus tard. En fait, elle était absente de la première version racontée par Antonio Villas-Boas aux autorités brésiliennes et visiblement américaines en février 1958. Cette version, tout le passage sur le sexe aurait été absent et aurait été rajouté donc dans le texte de 1965 pour le Flying Saucer. Il aurait voulu apparemment rester pudique et avait un peu honte de cette partie. Une des raisons pour lesquelles cette histoire a fonctionné ou aurait fonctionné à l'époque est assez étrange. Apparemment, à l'époque, beaucoup doutaient, aux États-Unis et en Europe, là où l'histoire a médiatiquement aussi circulé, beaucoup doutaient de la capacité d'un pauvre fermier brésilien à avoir une telle imagination. Donc, ce qui est déjà passablement raciste de la part des personnes qui ont pensé ça, et qui ensuite est complètement faux, puisqu'en réalité, il n'était ni pauvre, et ni, enfin, il avait des diplômes, puisqu'il finira avocat. Il passa un diplôme à l'université du Brésil, il finira avocat, et en fait, il était dans une ferme familiale, et on s'est rendu compte que la ferme familiale, ben non, en fait, c'était une famille de fermiers, certes, mais tout à fait riche et tout à fait éduqué.
Oui, puis même au-delà de ça, même si t'es pauvre, ça veut pas dire que t'as pas d'imagination. Enfin, tu peux avoir de l'imagination.
Exactement.
N'importe qui peut avoir de l'imagination.
Exactement. Là, je pense que je l'ai lu ça dans un article américain. Je pense que ce qu'ils ont essayé de dire dans l'article, c'était qu'il était peut-être isolé et peu confronté aux médias. Et que s'il avait été peu confronté aux médias, il n'aurait peut-être pas rencontré de récits. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas puisé dans des récits existants.
Oui, ce qui a été le cas dans beaucoup d'histoires d'enlèvement extraterrestre. Voilà.
Et ce qu'on va voir en plus est faux. Des incohérences aussi, il y a quelques incohérences dans les récits, puisque j'ai eu affaire à 2-3 versions différentes du même récit. Une version qui parle de décembre 1957 pour l'enlèvement. Une autre qui parle du 15 octobre 1957. D'une version à l'autre, on a un écart entre le moment où il a vu la lumière pour la première fois et le moment où il a été enlevé. Et cet écart varie de le lendemain à 10 jours. Sa blessure au menton, ensuite, il aurait raconté qu'elle serait due à une morsure de la femme alien, et non à un prélèvement sanguin. Donc il y a pas mal de versions de cette histoire et beaucoup quand même d'incohérences. Et en réalité, évidemment, tu t'en doutes, hein, Mathias, l'immense majorité des scientifiques qui se sont penchés sur la question rejettent complètement la véracité de cette histoire. Dans notre cas, aujourd'hui, c'est le chercheur américain Peter Rogerson qui pointe notamment qu'un article sur un enlèvement extraterrestre avait été publié dans un grand magazine très populaire, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, au Cruzeiro, en novembre 1957. Et je pense que c'est pour ça que qu'ils ont changé la date, enfin qu'il a changé la date, parce qu'il pointe également du coup que l'histoire de ce cher Antonio ne gagnera en popularité qu'en 1958 et qu'il aurait complètement pu antidater son histoire pour la faire se dérouler avant et ainsi faire semblant de ne pas avoir été influencé par cet article, ce qui correspond aussi au pourquoi certains forums utilisent l'argument de c'était un pauvre fermier brésilien, c'est-à-dire qu'il avait peut-être pas, il était peut-être isolé, pas forcément au fait de ces histoires-là, ou pas forcément lecteur de ces magazines, ce qui en fait était tout à fait le cas, ou aurait pu être le cas. Donc il aurait pu antidater cette histoire, ce qui explique que, suivant les récits, la date de l'enlèvement évidemment change. Enfin, le scientifique et auteur Carl Sagan pointe un dernier point de l'histoire qui est le déroulement narratif de ce que les prétendus kidnappés racontent avec le déroulement narratif d'histoires bien plus anciennes, et notamment en ce qui concerne les relations sexuelles avec des créatures fantastiques, et en fait il ressort de ces histoires des espèces de tropes qui sont exactement les mêmes, le côté perpétuer une race en couchant avec des humains, l'enlèvement, la perte de ses moyens, là on voit que à un moment donné, avec un espèce de gaz odorant, il perd un peu ses moyens, où il a une femme extraterrestre qui correspond exactement à ses désirs, un peu comme les succubes au final, et il fait en fait tout un tas de rapprochements entre ces différents récits qui, pour lui du coup, ces récits d'enlèvement extraterrestre et de sexe avec des extraterrestres, sont davantage à rapprocher des récits mythologiques. Et enfin, pour conclure quand même sur cette affaire, donc c'est une affaire qui se serait passée du coup quand même 4 ans avant l'affaire Betty et Barney Hill aux États-Unis, qui est le premier grand cas d'enlèvement extraterrestre aux États-Unis. Ce qui est marrant et ce qui rajoute aussi du grain à moudre pour les défenseurs de ce cas, c'est que Antonio Villas-Boas va disparaître de la vie publique et continuer ses études. Il obtiendra son diplôme et exercera du coup en tant qu'avocat dans la ville de Formosa. Il est mort en 1992 et il ne va pas forcément revenir sur cette histoire ni tenter de gagner de l'argent avec ou de la réutiliser, on va dire, à des fins lucratives. Ce qui rajoute souvent du grain à moudre aux défenseurs, puisque ben, s'il n'a rien à y gagner, pourquoi mentirait-il ? En ce qui nous concerne, je pense qu'on peut classer l'affaire.
Oh oui, je pense, oui.
sans trop de problèmes. Je sais pas ce que tu en penses.
Oh bah déjà, rien que les incohérences dans les dates, ouais. Et les incohérences tout court, c'était déjà un gros indice. Mais bon, ensuite, et ça c'est un truc assez personnel, mais je pense pas que... Moi je crois au fait qu'il y ait une vie extraterrestre, voilà. Je pense que vu la taille de l'espace, il y a forcément une autre vie extraterrestre quelque part. Après, je crois pas forcément qu'elle soit humanoïde comme ouais. nous. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces cas de rencontres avec des extraterrestres, ils sont quasiment toujours de forme assez humanoïde.
Et ils ont non seulement ça, mais en plus ils ont des technologies qu'on peut comprendre. Ils ont des technologies qu'on peut. C'est ça qui est drôle, c'est que il y a un prélèvement sanguin au menton, alors déjà ça a relativement peu de sens. En plus qu'il laisse une cicatrice, on suppose que ça a été mal fait, enfin c'est bizarre. Puis les câbles de son tracteur, les câbles de la batterie qui auraient été débranchés ou coupés, enfin on imagine que si les extraterrestres pouvaient arriver sur Terre, ils auraient des technologies un tout petit peu plus maligne, ou je ne sais pas, ou évoluée.
Puis après, c'est sur le design, enfin, de la créature. C'est vraiment, oui, on sent que c'est son fantasme à lui, qu'il l'a bien décrit. Mais ça fait très fanfic d'extraterrestre en fait, mais c'est pas mais il y a pas de voilà, je pense que si les extraterrestres un jour viennent sur Terre, pourquoi pas hein. Je suis pas sûr qu'on soit en mesure de comprendre déjà que ce sont des extraterrestres tout de suite en les voyant. Pas sûr qu'ils soient forcément humanoïdes.
Bah on les repérera au poil pubien rouge hein.
Oui, exactement. C'est comme dans la série V, sauf que au lieu de faire le signe, c'est « Oh non, eh, des poils pubiens rouges !» Incroyable.
Ce sont des extraterrestres.
Non, oui, je pense qu'on peut complètement classer cette affaire et que le degré de mystère, du coup, est très faible, mais très bonne fanfic d'extraterrestres.
Allez, affaire classée.
La légende de Maenak. En Thaïlande, une histoire de fantôme évoque autant l'horreur que le drame sentimental. Cette histoire, c'est celle de la pauvre Maenak et de son époux Mak, qui se raconte à travers tout le pays depuis plus d'un siècle. Et il se pourrait que cette légende se base sur une vraie tragédie, qui se serait déroulée à la fin du 19e siècle. Charles, dans le numéro 0 du Bureau des Mystères, ça remonte un petit peu, tu nous parlais du Phipob,
oui,
le fantôme dévoreur d'entrailles thaïlandais.
Ouais.
Eh bien, je te propose de retourner en Thaïlande sur les traces d'un autre esprit cette fois. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de Maenak ?
Non, ça me dit rien du tout.
Alors, Maenak, ça veut dire Madame Nak. On peut aussi l'appeler Nang Nak, donc là, c'est Mademoiselle Nak. Et c'est un des fantômes, si ce n'est LE fantôme, le plus populaire de Thaïlande. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler, avant de tomber par hasard sur un article du Bangkok Post qui raconte très sommairement une des versions de la légende. Alors, vu que l'histoire est assez méconnue chez nous, j'ai vite abandonné l'idée de trouver des informations en français. Mais je me suis vite rendu compte qu'il était plutôt compliqué de trouver des sources fiables en langue anglaise aussi. Mais j'ai fini par trouver mon bonheur avec un livre qui s'appelle Ghost Movies in Southeast Asia and Beyond. Donc c'est un ouvrage académique qui est sorti en 2016. En gros, c'est films de fantômes en Asie du Sud et au-delà. Alors c'est un gros livre, un gros bouquin, qui a été réalisé sous la direction de deux professeurs d'université qui s'intéressent aux religions en Asie du Sud-Est et aussi donc au cinéma. On y trouve dans ce livre les travaux de plusieurs chercheurs, mais c'est surtout le chapitre 3 qui m'a intéressé, qui a été écrit par Martin Platt. Martin Platt, c'est un chercheur indépendant qui a un temps été associé à l'université de Copenhague, et ce monsieur étudie l'histoire, la littérature, et du coup c'est ce qui nous intéresse ici, le paranormal dans la culture thaïlandaise. Alors pour parler de Maenak, Martin Platt se base principalement sur les écrits de l'auteur thaïlandais Anake Nawigamune, qui a rédigé un long article en 2000 sur les origines du personnage. Alors voilà, maintenant que j'ai fait le point sur les sources, on va passer enfin à la légende. Si Phrakhanong est aujourd'hui un des 50 districts de la ville de Bangkok, il fut un temps où les grandes routes, remplies de voitures et de scooters, et les immenses buildings, n'existaient pas encore. Au 19e siècle, Phrakhanong était encore une campagne, avec ses petits villages et ses phénomènes étranges. C'est dans cette région qu'habitait, selon les légendes, la belle Nak. Nak vivait avec son époux, Mak, dont elle était follement amoureuse. Leur bonheur, qui semblait total, s'apprêtait à grandir encore plus. Nak était enceinte et s'apprêtait à donner naissance à leur premier enfant. Mais le temps vira l'orage lorsque Mak est appelé à la guerre. Alors que Mak se bat pour son pays, Nak meurt en couche. Son bébé ne survit malheureusement pas. Mais lorsque Mak rentre de la guerre, il ne trouve pas sa maison vide. Nak et son enfant sont bien là, heureux de le retrouver. Leur vie normale, sans nuages, peut reprendre. Les voisins terrifiés tentent alors de prévenir Mak, mais il ne veut rien entendre. Ce ne sont que des sottises, sa femme ne peut pas être un fantôme, c'est impossible. Mais le doute, tout de même, s'insinue peu à peu en lui, lorsque ses voisins, l'un après l'autre, commencent à mourir dans de mystérieuses circonstances. Et si c'était sa femme, le fantôme, qui faisait disparaître les témoins indésirables ? Un jour, alors qu'elle est en train de cuisiner pour son mari, Nak fait tomber un citron vert entre les lames du plancher. Elle étire alors son bras de manière surnaturelle pour aller le rattraper, pensant être seule. Mais Mak est bien là. Il découvre, horrifié, que les voisins avaient raison. Lorsqu'il regarde sa femme et son enfant, il ne voit désormais plus leur forme humaine, mais des corps fantomatiques en décomposition. L'illusion est brisée. Mak prend la fuite. Les villageois tentent de bannir l'esprit de Nak, mais n'y arrivent pas. Ils font donc appel à un vieux moine qui réussit finalement à forcer Nak à quitter son mari. Le fantôme accepte sa propre mort et s'en va dans l'au-delà. Comme avec la plupart des légendes, il existe d'autres versions de l'histoire de Maenak. Une version populaire, tellement populaire que c'est celle que vous allez trouver sur Wikipédia, raconte une autre fin. Après avoir vu le bras de sa femme s'allonger, Mac fait comme si de rien n'était et ne se fait pas repérer. Malin, il attend la nuit pour quitter la maison. Quand Nack s'étonne de le voir quitter la chambre, il prétexte une envie d'aller aux toilettes. À peine arrivé sur le pas de la porte, il s'enfuit en courant et se cache dans un sambong, un arbuste. Mac, qui a compris qu'il avait fui, le cherche mais ne le voit pas. Profitant de ce court répit, il court encore plus vite en direction d'un temple. Il sait que les fantômes ne peuvent pas y entrer. Furieuse, Nack commence alors à terroriser tout le village, qu'elle tient pour responsable de la fuite de son mari. Les habitants décident alors de faire appel à un exorciste. Celui-ci finit par affronter Nack et à la vaincre. Il enferme son esprit dans un pot en terre cuite et jette le pot dans le canal. Mais deux pêcheurs tombent malheureusement dessus et l'ouvrent, libérant à nouveau l'esprit en colère de Nack. Alors que ce soit pour cette version riche en rebondissements pour les plus simples, l'histoire de Ma et Nack est présentée par beaucoup de Thaïlandais comme vraie. Certains prétendent que l'histoire se serait déroulée sous le règne du roi Rama IV, c'est-à-dire entre 1851 et 1868. Donc à ce moment-là, ce n'est pas la Thaïlande, ça s'appelle le Siam. Cette supposition n'a pas été vérifiée, mais elle a été en partie étudiée par Anake Nawiyamune, l'auteur thaïlandais dont parle Martin Platt dans le livre qui m'a servi de source. Anake Nawiyamune a cherché la plus vieille trace écrite faisant référence à Ma et Nack. D'ailleurs, il n'a trouvé aucun document contemporain des faits, mais il a découvert quelque chose qui datait de 1877, c'est-à-dire seulement 9 ans après le règne du roi Rama IV. Le prince Damrong, un des nombreux fils de Rama IV, était passionné par l'histoire de son pays. À 15 ans, il a demandé à ce qu'on fasse un sondage auprès des personnes qui passaient par le palais royal. Au détour d'une des questions, les sondés devaient donner les noms des 4 personnalités les plus marquantes dont ils avaient entendu parler. Et celui de Ma et Nack était arrivé en première position. Anake Nawiyamune a également trouvé une autre source plutôt intéressante. Un article du Siam Prapet, daté de 1899. Un lecteur demande des informations à propos du, je cite, « démon Nang Nack ». Le journaliste qui répond, donc qui est là sous les initiales KRS Kulab, raconte alors une histoire qu'il présente comme bien réelle. Alors si la forme de l'article reprend celle d'un poème, ce qui était plutôt courant en fait dans le courrier des lecteurs de ce journal, le contenu sonne vrai. KRS Kulab révèle qu'entre les règnes de Rama III et Rama IV, donc c'est-à-dire entre 1824 et 1868, là on a une plus grosse fourchette, une femme prénommée Mac est morte en couche. Elle a ensuite été enterrée au temple Wat Mahabut, près de Phrakhanong, mais elle n'est pas revenue d'entre les morts. Nack et son mari, qui s'appelle Chum dans cette version, auraient déjà eu des enfants. L'un d'entre eux, craignant que donc le mari se remarie et les prive d'héritage, a alors eu une idée très étrange. Il a voulu faire peur à son père et aux futures prétendantes. Alors il a mis des vêtements de femme et a commencé à semer la terreur dans son village pour faire croire que sa mère était devenue un fantôme. Alors l'histoire ne dit pas si ça a fonctionné, mais on suppose que non. Il est plutôt décevant de se dire que la tragique histoire d'amour surnaturelle de Nack et Mac pourrait ne pas avoir existé, qu'il s'agit d'un simple canular dans une affaire d'héritage. Ça devient tout de suite beaucoup moins romantique. Et c'est sans doute pour ça que les Thaïlandais préfèrent retenir le récit de fantôme. Dans un article consacré à Ma et Nack, publié en 2013, le Bangkok Post a, en tout cas c'est mon avis, très bien résumé la situation. Je le cite. « Qu'elle ait réellement existé ou non importe peu. Parce qu'elle existe dans nos esprits. Car presque chaque année depuis 7 décennies, un nouveau film ou une nouvelle série perpétue sa mémoire pour les nouvelles générations. Car oui, Ma et Nack est devenu depuis le début du XXe siècle un personnage emblématique dans la culture thaïlandaise. C'est une des histoires de fantômes les plus connues et les plus appréciées, qui a inspiré un nombre incalculable de poèmes, de récits, de pièces radiophoniques, de romans et de films. Depuis 1926, Ma et Nack s'est imposée comme un personnage emblématique du cinéma thaïlandais. Elle est depuis apparue dans plus de 30 films, dont deux qui ont particulièrement marqué l'industrie. Le premier est Nang Nack, sorti en 1999, qui est devenu un des longs métrages les plus primés du pays. Il est même ressorti en 4K l'année dernière pour marquer le 20e anniversaire. Et l'autre, c'est Pimak Phrakhanong, dont je parlerai tout à l'heure dans mes recommandations. Il est sorti en 2013 et il propose une approche un peu plus comique de l'histoire. Et c'est toujours à ce jour un des plus grands cartons du box-office thaïlandais. Mais assez parlé de films. Pour la dernière partie de cette histoire, je voudrais vous emmener, chers auditeurs, chères auditrices, et t'emmener, mon cher Charles, dans un lieu bien réel. Nous allons aller dans le district de Suan Long, près du district de Phrakhanong à Bangkok, où se trouve le temple de Wat Mahabut. Oui, c'est celui qui a existé, qui a été cité dans certaines versions de la légende, et où le corps de Maenak aurait été enterré.
D'accord, est-ce que c'est celui où le mari s'est réfugié du coup ?
Alors, ça dépend des versions. Dans certaines versions, oui. Dans d'autres, c'est un temple qui n'est pas nommé, mais on suppose que c'est celui-là, oui. Ce temple-là existe bel et bien, et on y trouve un mausolée dédié à Maenak. Il y a un autel, sur lequel on trouve deux statues, franchement inquiétantes, qui représentent le fantôme et son bébé mort-né. Il y a une atmosphère plutôt étrange quand tu regardes les images. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient un peu trop impressionnés à l'idée de s'approcher des statues, il y a une télévision qui retransmet un petit peu à l'écart les images de la pièce en direct.
Toujours en direct ?
Oui, cet hôtel est filmé par une caméra. Et en fait, pour les gens qui veulent pas s'approcher, tu peux rester dans une pièce à côté et le regarder à la télévision.
D'accord, et c'est un genre de live stream qu'on peut trouver sur internet du coup ?
Alors j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé de live stream sur internet. J'imagine que c'est vraiment à l'intérieur du temple. Mais ouais, visiblement c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu trop impressionnés à l'idée d'aller vraiment face aux statues. Du coup, t'as ce stream dans d'autres parties du temple. Alors Maenak, si les gens y vont, c'est parce qu'elle est considérée comme un esprit pouvant exaucer des vœux. Chaque jour, des personnes se rendent devant son hôtel. Donc il y a les femmes enceintes qui demandent une grossesse sans complication. Et des jeunes hommes aussi qui veulent échapper au service militaire. Alors je sais pas si t'es au courant, mais en Thaïlande, les convocations au service militaire fonctionnent un peu sur un système de loterie. C'est un peu au hasard, quoi.
D'accord.
C'est possible, avec un peu de chance, de pas être appelé.
D'accord.
Pour faire son service militaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeunes hommes qui vont pour essayer d'échapper au service militaire. Tout près de Maenak, il y a aussi des arbres sur lesquels on peut poser des rubans colorés dans l'espoir de gagner au loto local. C'est une autre tradition, mais tout est un petit peu au même endroit dans le temple, donc c'est pour ça qu'il y a souvent pas mal de monde qui va à cet endroit-là. D'ailleurs, sur TripAdvisor, tu trouveras des visiteurs très satisfaits qui disent qu'ils ont vu leurs vœux exaucés. Et parmi ces témoignages, il y a une des chanceuses qui dit qu'elle va sans doute devoir revenir au temple. Car ça, c'est une autre tradition. La tradition veut que l'on offre à Maenak une robe pour la remercier d'avoir exaucé notre vœu. Libre à vous de ne pas le faire, mais c'est à vos risques et périls, car on dit que ce que Maenak offre, elle peut aussi le reprendre. Cette superstition est en tout cas prise très au sérieux. Sur les photos et les vidéos du mausolée que j'ai pu voir sur internet, il y a toujours une rangée de robes traditionnelles à côté de Maenak. Tu as un petit portant, comme ça, sur lequel il y a plein de robes. Alors, plus ou moins, on sent que c'est des robes plus ou moins chères, plus ou moins bien travaillées, tout ça. Mais il y a toujours des robes traditionnelles sur un portant à côté de la statue de Maenak. Alors, le niveau de mystère de cette histoire, pour moi, est relativement faible. Puisque pour moi, c'est avant tout une belle légende, une histoire d'amour tragique.
C'est vrai.
C'est parfait pour le cinéma, hein. C'est pour ça qu'il y a eu autant de films qui ont été créés à partir de cette légende. Et bien sûr, on trouvera toujours des gens pour maintenir que ça s'est bien passé, même s'il n'y a pas la moindre preuve, finalement. Car comme le dit le Bangkok Post, que Nak ait vraiment existé ou pas, ça n'a pas d'importance, puisque l'histoire, elle, existe, et qu'elle inspire énormément les Thaïlandais, que ce soit il y a très très longtemps pour cette histoire de canular pour un héritage, à la fin du 19e siècle, jusqu'aux réalisateurs de cinéma d'aujourd'hui. C'est vraiment une part de la culture de tout un pays, et c'est pour ça que, pour moi, elle est réelle, mais en tant que personnage de fiction. Est-ce qu'on a envie de classer l'affaire ? Oui.
Oui, je pense qu'on peut classer l'affaire quand même.
Mais en faisant mes recherches, et c'est de ça dont je voulais parler aussi à la fin de cette histoire, si Maenak, c'est très clair que c'est un personnage qui est totalement de fiction, mais qui a inspiré beaucoup de choses, j'ai réalisé en faisant mes recherches à quel point l'imaginaire thaïlandais était très très riche, et surtout très ancré dans le quotidien. Donc même si on a déjà parlé des Fipob, toi c'était dans le numéro 0, une histoire qui était présentée vraiment comme vraie et surtout récente, et de Maenak, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer les fantômes de ce pays et qu'il y a encore pas mal d'histoires à raconter sur toute cette partie du globe, particulièrement en Thaïlande où l'imaginaire est très très chargé et très ancré dans le réel.
Avant de se quitter, comme d'habitude, on va passer aux recommandations culturelles, et je vais garder la parole, Mathias, si ça te va, puisque je vais vous recommander une série que j'aime beaucoup, et qui a, vous allez voir, un rapport avec, avec l'histoire que je vous ai racontée, puisque cette série, c'est Sex Education. Alors Sex Education, c'est une série Netflix qui a débuté assez récemment, puisqu'elle a débuté il y a un petit peu plus d'un an, en janvier 2019. 8 épisodes étaient parus pour la première saison, ils durent entre 45 minutes et 1 heure, et la deuxième saison a été publiée en janvier 2020, donc juste le mois dernier, 8 épisodes également. Et cette série, pourquoi je la recommande alors ? pour plusieurs raisons. Pour ce qui est du petit synopsis, déjà on suit donc en majorité l'histoire de la famille Milburn, dont la mère, qui est jouée par l'excellente Gillian Anderson, hein, Scully dans X-Files, et le père sont séparés. Tous deux sont sexologues ou thérapeutes, et leur fils, Otis, qui est joué par Asa Butterfield, qui, je crois qu'on l'a vu dans Hugo Cabret, il me semble, c'était l'enfant dans Hugo Cabret, vit avec sa mère, et avec son amie Maeve, ils vont monter un petit cabinet clandestin de sexologie à destination de ses collègues lycéens, puisque lui a des connaissances du fait que, ben voilà, quoi, sa mère parle très ouvertement de sexe, ce qui a tendance à le gêner prodigieusement. Et ben ses collègues lycéens, lycéennes, ont ben, tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer quand notre vie sexuelle démarre, et du coup ils vont monter un petit cabinet de sexologie clandestin avec Maeve. Et en fait, ces différents problèmes, ces différents cas, plutôt des cas que des problèmes, de ces jeunes étudiants, vont être le prétexte à des discours sur ces 10 problèmes. Et c'est un point fort de la série, à mon sens, c'est qu'elle arrive à, du coup, traiter de tout un tas de sexualités différentes, c'est-à-dire qu'elle traite pas de la sexualité comme si c'était quelque chose de normé, mais au contraire, elle arrive à parler des sexualités au pluriel, en tombant rarement, on va dire, dans l'écueil d'imposer une norme, une vision. Et du coup, la série est particulièrement, je trouve, bien faite à ce niveau-là. C'est écrit par une jeune scénariste qui s'appelle Laurie Noon. Je suis allé voir, je la connaissais pas du tout. Et c'est une jeune femme, une jeune scénariste, qui a du coup écrit cette série que je trouve très chouette et dont je me suis dit, et dont on s'est dit avec plusieurs de mes amis qui ont la regardé, qu'on aurait aimé la voir en étant plus jeune, que c'est quelque chose, une série qu'on aurait aimé avoir pendant notre lycée, en l'occurrence, parce qu'elle propose un discours sur le sexe, les sexualités et l'éducation sexuelle, qui est très détendu, qui se fait sans tabou, on va dire, en parlant très librement, et sans jamais non plus tomber dans le sexe gratuit ou le sexe pour montrer des jeunes dans les séries comme ça a déjà été le cas par le passé. Et donc si je la relis à mon histoire, c'est parce que mon personnage préféré de la série, il y a de nombreux personnages, du coup c'est une série dans laquelle il y a de nombreux personnages, mais mon personnage préféré, mon personnage de cœur, c'est Lily, une jeune femme qui fantasme sur les aliens et qui dessine des bandes dessinées, et qu'en plus elle dessine très bien, c'est une chouette dessinatrice, elle dessine des bandes dessinées science-fiction érotiques. En mettant en scène des trucs incroyables, ce qui amène parfois à la confection de déguisements, ce qui est très drôle. Et donc du coup, c'est une série que je recommande et que je recommande, on va dire, aux plus jeunes que moi. C'est-à-dire que moi, je la vois, j'ai 28 ans, donc il y a des trucs évidemment qu'on sait quand même au bout d'un certain temps, mais que j'aurais aimé voir plus jeune. Et c'est une série que je recommande aussi, pas que pour le discours qu'elle a sur le sexe, mais aussi pour ses qualités d'écriture. C'est une série qui arrive à bien faire avancer son intrigue par ses personnages et par les relations que les personnages entretiennent entre eux, et ça je trouve que c'est assez riche. C'est une série qui se passe en Angleterre, et il y a des décors un peu surréalistes. Le décor anglais à la fois dans un grand lycée, mais dans une Angleterre rurale, extrêmement verte, toujours tout verdoyant, toujours très beau, les maisons sont sublimes. Elle a un côté hors du temps, c'est une série qui a un côté hors du temps, ils ont des smartphones récents, mais les décors et les fringues donnent l'impression d'être soit dans les années 60, soit dans les années 80, enfin il y a quelque chose comme ça d'un petit peu intemporel, en fait, dans cette série, et en dehors du fait, qu'elle a un discours sur le sexe qui est particulièrement intéressant et qui a un ton particulièrement éducatif. Je trouve que ça reste, même en dehors de tout ça, c'est une chouette série. Et d'ailleurs, la saison 3 va arriver beaucoup plus vite que prévu, puisque apparemment Netflix a annoncé que la saison 3 débarquerait dans le courant de l'année 2020, donc il n'y aurait pas besoin d'attendre les 1 an pour binger à chaque fois. Le problème avec Netflix, de binger 8 épisodes, d'oublier ce qui se passait, et puis de retomber 1 an après sur la série, apparemment on n'aura pas à attendre autant de temps, puisque la série va voir sa saison 3 débarquer un peu plus tôt que prévu.
Bah écoute, tu m'as convaincu de regarder.
J'ai pas encore regardé Sex Education, mais tu m'as donné envie. C'est des formats de combien de minutes par épisode?
Entre 45 minutes et une heure.
D'accord, ok, bah très bien. Eh bien écoute, je vais mettre ça dans ma liste des choses à regarder sur Netflix. Le truc dont je voulais parler, bah, je l'ai un peu teasé moi dans mon histoire, c'est le film Pimak. Pimak qui est un film sorti en 2013, donc film thaïlandais, qui est tout simplement le plus gros succès au box-office du pays, le plus gros succès au box-office de Thaïlande. Il a même dépassé Ong Bak, pour te dire. Donc
Ah
c'est...
oui.
Oui, non, c'est... Voilà, c'est un film énorme, énorme succès populaire. C'est un film qui est en fait une interprétation de l'histoire de Mak et Nak. Une histoire un peu particulière, puisqu'elle va vraiment être racontée du point de vue de Mak, qui va comprendre petit à petit qu'il se passe des trucs bizarres avec sa femme. Et ce qui est intéressant là, c'est que il revient en fait de la guerre avec plusieurs amis, plusieurs compagnons d'armes, qui sont quatre, et il va les loger dans une petite maison en face de chez lui. Et ce sont ses amis qui vont se rendre compte assez progressivement qu'il y a quelque chose de très bizarre avec sa femme, mais qui osent pas trop lui dire parce que c'est leur pote. Et de l'autre côté, qui osent pas trop lui dire parce qu'ils ont peur de se faire tuer par le fantôme aussi. Donc c'est plutôt une comédie en fait. Et donc je trouvais ça plutôt drôle, c'est complètement barré hein, évidemment, mais je trouvais ça vachement sympa, c'est une autre manière de le montrer. C'est vrai que l'histoire de Maenak, souvent dans le cinéma thaïlandais, est représentée soit comme un drame, soit comme un film d'horreur. Là en l'occurrence, je pense que c'est pour ça aussi que ça a bien marché, c'est un peu leur bienvenue chez les ch'tis, ça a fait c'est une grosse comédie populaire qui en plus se base sur un mythe très connu dans le pays. Donc je pense que c'est pour ça que ça a bien marché. Il a gagné beaucoup de prix à travers l'Asie. Il est même sorti dans quelques cinémas américains, mais chez nous, Pimak, on ne connaît pas. Ce qui est vraiment dommage. Donc si vous avez l'occasion de le voir, bah écoutez, je vous invite à le faire. Mais je voulais en fait surtout parler de son réalisateur. Donc désolé au passage, parce que je vais sûrement faire une erreur de prononciation quelque part. Banjong Pisan-Tanakun, qui est en fait un réalisateur dont j'avais déjà croisé le travail. Et je pense que toi aussi, Charles. Parce que il était dans le film d'anthologie The ABCs of Death. Je sais pas si tu te souviens. C'est un film d'anthologie où chaque lettre de l'alphabet est utilisée pour un court-métrage horrifique. Lui, il avait fait le segment N is for Nuptials, que j'avais trouvé assez drôle, qui était en fait une histoire d'un couple où il va se passer un truc très très bizarre. C'est très rapide, hein. Ça dure, je crois, 3-4 minutes dans mon souvenir. Et en fait, c'est bizarre parce que c'était pas vraiment le ton de ses premiers films. Là, on voit qu'il a sorti une comédie. Que dans ABCs of Death, il a fait un court-métrage qui était plutôt amusant. Et en fait, ses premiers films, il les a fait en duo avec un autre réalisateur. Et son premier film vraiment connu, c'était Shutter. Et Shutter, qui est donc très sombre, hein, il n'y a pas d'humour, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et j'en avais entendu parler pour la première fois il y a quelques années. En fait, j'étais en train de discuter avec des cousins et la cousine de ma compagne qui vivent tous à l'étranger. Et on s'était rendu compte qu'on aimait tous les films d'horreur. Donc on avait une petite discussion comme ça et forcément la question s'était vite posée, la question du tueur de Scream, lequel est ton préféré? Alors moi à l'époque je crois que j'avais dû sortir The Conjuring 2, il me semble, quelqu'un avait sorti Insidious et donc la cousine chinoise de ma compagne avait entendu parler d'un film dont je n'avais jamais entendu parler, c'était Shutter, un film thaïlandais sorti en 2004. Et en fait ici nous en France on connaît surtout son remake américain qui est sorti en 2008 qui s'appelle Spirits avec Joshua Jackson. Mais l'original a cartonné en Asie, surtout en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie. Et donc Shutter, qu'est-ce que c'est? Shutter, c'est l'histoire d'un photographe et sa petite amie qui rentrent de soirée en voiture et qui percutent une jeune femme sur la route. Jusque-là, on est sur du Souviens-toi l'été dernier. Ils la laissent pour morte et ils rentrent chez eux. Là où ça devient pas vraiment Souviens-toi l'été dernier, c'est que peu après, le photographe commence à voir apparaître sur ses clichés des ombres blanches. Puis une espèce de forme féminine qui lui rappelle quelqu'un dans le décor de ses clichés. Alors, est-ce que c'est le fantôme de la jeune femme qui vient le hanter? Je ne vous en dis pas plus. Mais je vous invite très très fortement à voir ce film. C'est une vraie surprise pour moi. C'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques années. Jusque-là, bah, j'avais pas trop eu l'idée de le regarder. Et c'est vrai qu'en préparant cet épisode du Bureau des Mystères, je me suis dit, ah tiens, c'est le réalisateur de Pimak. On va voir ce que ça donne. C'est bizarre, il a fait un truc marrant. Et en fait, son premier film, c'est un film d'horreur. Est-ce que ça va être vraiment flippant? Effectivement. J'ai sursauté plusieurs fois devant le film. Donc le co-réalisateur, c'est Park Poom Vong Poom, et ils ont retravaillé ensemble sur un autre film qui du coup maintenant me fait vachement envie, qui s'appelle Alone, qui a l'air d'être exactement dans le même ton que Shutter, donc je pense que je vais le regarder prochainement. Et ils ont fait aussi des films d'anthologie, Phobia 1 et Phobia 2, qui sont pareil, des anthologies de courts-métrages d'horreur qui ont vachement bien marché en Asie, mais pas beaucoup chez nous. Donc voilà, si on peut réhabiliter ne serait-ce que Shutter, qui est... J'ai pas vu Spirit avec Joshua Jackson, mais il me faisait pas envie. Et là, pour le coup, la version thaïlandaise m'a vraiment cramponné à mon siège quelques fois, donc voilà, je vous le conseille vivement.
Eh ben, tu vois, tu m'as tellement donné envie de le voir que j'ai déjà le DVD.
Ouais, je t'avais prévenu. Et c'est vrai que, ah oui, ça, je préfère prévenir, c'est chiant de le trouver. Voilà.
Ouais, le DVD est pas facile à
Le
trouver.
DVD, ouais, sur Internet, tu peux essayer de te débrouiller. Bon, après, il faut s'attendre à payer entre 10 et 20 euros, je crois, aujourd'hui, il est
Ouais,
coté.
voilà. Non, mais il y a des petits magasins de DVD dans pas mal de villes quand même qui ont ce genre de référence et pour pas trop cher. Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros dans mon petit magasin de DVD. Mais à la Fnac, c'est impossible
Ouais,
par
bah,
exemple.
j'avais cherché à la Fnac, il n'était pas sur Amazon, il était direct à 30 euros. Donc, non, c'est pas possible. Et puis, en plus, surtout, le problème, c'est que le Spirits de 2008, le remake américain, a tellement inondé le marché que tu trouves quasiment que celui-là quand
Ouais,
tu
voilà.
cherches sur Internet. Donc, ouais, si jamais vous réussissez à le trouver, et puis même en téléchargement illégal, n'essayez même pas, c'est déjà parce que c'est illégal, mais en plus parce que, bah, il n'y a pas. Donc, voilà. Donc, tendance, essayez de trouver le DVD si vous le chopez quelque part, et franchement, ça vaut le coup.
Très bien, très bien. Mais écoutez, je pense qu'on en a fini pour cet épisode. Il nous reste à vous dire de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter, @BDM le podcast, sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez, comme toujours, nous laisser des avis sur iTunes. Et ben, d'ici là,
On vous souhaite une très bonne Saint-Valentin.
une très bonne Saint-Valentin, exactement.